BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, on va faire un point sur la production française de films publicitaires. On sera avec Jérôme Pasquier, c'est le président de l'Alliance des producteurs de films publicitaires. Emmanuel Grossir, qui signe l'édito de la semaine, reviendra sur l'acquisition d'Epsilon par Publicis. Et puis, on s'intéressera à la musique dans la pub, à l'identité sonore des marques, avec Jérôme Alquier de l'agence The et Vraj Minassian, directeur musique et expérience à la direction de la marque Orange. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valagne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, dans l'actualité cette semaine, Coca-Cola qui fête un siècle de complicité avec les Français, elle est présente chez nous depuis 1919.
Exactement, et pour ses 100 ans en France, Coca-Cola célèbre la capacité des Français à se réunir à travers ce slogan. Pour Coca-Cola, au-delà de nos différences, nous avons tout à faire ensemble. Alors ça se traduit par un film publicitaire qui retrace une série de grandes dates françaises, ça passe par la libération de 44, mai 68 ou encore la Coupe du Monde 98. Autant de moments où les Français se retrouvent unis au-delà de leurs différences. Et la campagne est signée par l'agence La Chose.
Une campagne d'affichage dévoilée cette semaine, celle d'IKEA à Londres, qui se veut une campagne responsable, Marie.
La marque veut tenir sa promesse annoncée au début de l'année, créer le magasin le plus durable de tous les temps. Alors c'est désormais chose faite, son magasin éco-responsable vient d'ouvrir ses portes dans le quartier de Greenwich à Londres, un bâtiment construit avec des matériaux durables, équipé de panneaux solaires. Et la campagne d'affichage qui accompagne ce lancement est elle aussi responsable, puisque les affiches invitent les clients à se rendre au magasin de la façon la plus durable possible, à pied ou en transport en commun. Des affiches qui ressemblent à des panneaux de signalisation, en fait, qui indiquent la direction à prendre pour se rendre au magasin et le nombre de pas qu'il reste à parcourir. Une campagne imaginée par l'agence Mother London.
Transavia, de son côté, dévoile une campagne à Nantes, une campagne à découvrir les jours pluvieux.
L'agence Havas Paris 7 a déployé un dispositif pour le moins original, des affiches pour la compagnie aérienne Transavia qui invite à partir au soleil, à Athènes, à Mykonos ou encore à Tel Aviv. Et alors ce qui est original, c'est l'endroit où ont été collées ces affiches. Elles ont été collées donc sous des stores, sous des balcons ou sous les toits des abribus, des endroits où s'abritent les piétons nantais les jours de pluie et qu'ils découvrent donc en levant les yeux, une façon de les inviter à partir, à se mettre vraiment à l'abri dans l'une des 26 destinations au départ de Nantes.
Et puis, autre invitation au voyage, celle d'Uber qui lance son programme Right to Win.
Uber dévoile une campagne d'affichage avec des photos de New York, Rio ou Sydney. Des photos qui sont accompagnées de phrases de clients stupéfaits à leur arrivée à destination. On peut lire « On n'a pas dépassé Courbevoie là » ou encore « On n'avait pas dit Bastille » parce que c'est la promesse d'Uber ce mois-ci, offrir à ses clients des voyages à l'autre bout du monde, mais aussi d'autres cadeaux comme un an de course offerte. Jusqu'au 12 mai, Uber récompense 9 trajets sur 10, un dispositif imaginé avec l'agence DDB Paris.
Il y a un petit retour de créativité là dans l'affichage, Frédéric.
Ouais, c'est vrai. Ben, ça doit être le printemps, on va dire ça comme on va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un média qui est toujours assez dynamique et qui renouvelle peut-être l'imagination des créatifs qui en ont peut-être un tout petit peu marre juste des activations digitales. C'est possible.
Ça fait pas de mal.
Certes.
Merci Marie Valogne.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Julien Pasquier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Alliance des producteurs de films publicitaires. Aujourd'hui, justement, qui sont ces producteurs publicitaires de films en France ?
Et ben justement, c'était la question d'une étude qu'on a réalisée, qu'on s'est auto-audité. On a eu, c'est surtout le fruit de 5 ans de révolution, de chamboulement complet dans notre secteur, avec l'arrivée de la production digitale, qui a fait émerger une tonne de nouveaux opérateurs qui sont arrivés sur le marché, qui sont arrivés par des filières qui sont pas du tout les filières classiques habituelles. Et du coup, notre étude nous a aidé à essayer d'identifier quels sont ces nouveaux acteurs et d'où ils viennent. Et ça, j'ai pu le faire grâce à un outil génial qu'une jeune entreprise a mis au point, qui s'appelle B-Réputation, je crois que vous les avez reçus ici, et qui nous ont permis d'auditer complètement ce marché et d'avoir un retour direct. Donc on l'a publié là. cette étude. L'étude, elle est sur deux angles. Hein. Elle est sur un angle d'abord portrait. C'est quoi le profil?
Justement, c'est quoi le profil? C'est ma question.
Ah bah, le profil, aujourd'hui, il a encore l'homme blanc quadra est encore bien présent.
Ouais.
Mais il y a quand même une... C'est en train de pousser. Il y a évidemment des entrepreneurs qui sont en train de très dynamiques qui sont en train d'arriver. Voilà, c'est en train de s'étalonner un peu. Alors, on n'est pas hyper bon dans la pub, mais comme j'ai l'impression au niveau national, on est à peu près comme tout le monde, aussi mauvais que tout le monde.
Ouais.
Mais c'est en train d'évoluer. Mais en gros, c'est des entrepreneurs expérimentés.
Qui viennent d'où, en fait? Comment est-ce qu'on devient producteur?
Il y a plein de chemins.
Oui.
Aujourd'hui, il y a plein de chemins, et c'est ça un des sujets qui nous concerne, et un des chantiers de la PFP. Ça va être de créer vraiment déjà de définir le statut, ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui. En fait, on est assez mal lotis, hein, les producteurs de...
Et on vous connaît assez mal, en fait.
Oui, parce qu'on est sous les radars de plein de trucs. C'est un métier qui est complètement autorégulé. Alors, on nous a mis... Alors, c'est un peu technique, mais dans la famille du cinéma.
Ouais.
On fait partie de la grande famille du cinéma. Mais on est un cas particulier...
À l'intérieur de
cette famille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est complètement fou, puisqu'on représente pratiquement un business de 400 millions d'euros en production, c'est 14 000 salariés, contrats, des CDU. Si vous voulez, on est hyper important. On est 40-50% du business du cinéma.
Et vous êtes tous indépendants ou vous êtes rattachés à des agences? Comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs catégories. L'écosystème, il est vraiment divers. Il est aussi divers que la demande, en fait. Il y a des productions qui sont des productions indépendantes qui sont créées sur le marché français. Il y a des bureaux de production internationale qui ont ouvert leurs bureaux ici. Il y a des productions intégrées aux agences maintenant qui ont fait un peu... c'est un peu compliqué. Ouais. Leur arrivée, en tout cas. Maintenant, c'est en train de se...
Alors, justement, parce que on en parle de ça, c'est un sujet. Le fait que les agences créent leur propre département de production et par conséquent ne s'adressent plus ou beaucoup moins aux producteurs indépendants, ça vous a posé un problème? Vous avez poussé un coup de gueule qui avait dans la profession été remarqué aujourd'hui? Est-ce que les choses changent? Est-ce que les agences...
Alors, ce mouvement est devenu mondial. Hein. Pas plus tard que la semaine dernière, on a, grâce à notre réseau international, on est structuré, nous, au niveau international, avec soit le CFPE pour l'Europe, soit ce qu'on appelle le World Producer Summit, qui est mondial. Et on a, si vous voulez, là, piloté, aidé les Indiens, le syndicat indien, à se mobiliser contre le Far West, mais parce que c'est vraiment piloté par les quatre grands groupes de communication
mondiaux
et qui, si vous voulez, sont arrivés un peu brutalement dans le marché. Et c'est vrai que les Indiens cette semaine ont fait une déclaration incroyable et qui ont été relayés par toute la presse, et c'est en train de changer très très vite. Alors là-bas, ça va très vite, mais on a fait à peu près la même chose nous ici, avec grâce au support des médias, pour gueuler en disant mais c'est pas possible, vous êtes en train de c'est du braconnage pur et simple.
Et justement, alors, quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter par rapport à une production intégrée en agence?
Alors, c'est marrant, c'est que cette question, faut la poser à l'envers, en fait. Faudrait dire, qu'est-ce que des agences intégrées ou des productions intégrées ont à apporter à la création et aux annonceurs?
Ouais.
C'est ni leur objet, ni leur métier. Donc, ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait répondre. Et vous avez beaucoup de difficultés à avoir des réponses. On nous a opposé que c'était plus moins cher, c'est faux. On est audité au moins à trois étapes de la fabrication des films, soit par des conseils en production, soit par des services d'achat, soit par des agences, d'ailleurs.
Ouais.
Elles-mêmes, enfin, après, on nous a dit qu'ils étaient plus rapides parce qu'ils étaient intégrés aux agences, mais on est hyper flexible, on est des petites TME, des PME, on est vraiment, bon, bref, réactifs. Ils ont vraiment la mémoire courte, parce que c'est justement notre réactivité comme ça qui a permis de sauver des coûts depuis des décennies. Non, c'est simplement de l'enfumage là sur la captation de marge sur un marché, mais on va être optimiste. Nous, il y a eu le moment de la gueulante,
de tension.
Là, franchement, on sent qu'on est arrivé au bout d'un truc.
C'est-à-dire, vous parlez. Enfin,
Alors, on a ouvert le débat avec une grande agence. Alors, je peux pas la citer, mais j'espère que ça va aller au bout. C'est qu'on a vraiment là. Ça y est, ils sont dans des trucs de bonne pratique, et on est deux doigts de signer une charte avec une grande agence. Donc, j'espère que vous nous réinviterez pour en parler sur justement sécuriser le marché, quoi. Et donc, on sent vraiment que c'est en train d'évoluer. On n'est pas contre les productions intégrées. Je crois qu'elles sont nécessaires, en vérité, pour toute une partie du business qui est ce business digital qui n'est pas forcément
notre partie.
Mm-hmm. Et il faut qu'elles investissent et qu'elles intègrent les métiers. Enfin, je vais pas leur faire leur business plan, mais en gros, je pense qu'elles ont un coup à jouer sans être venir. En fait, elles ont cherché là pendant des années à industrialiser le sur-mesure, ce qui évidemment peut absolument pas fonctionner, alors qu'elles ont tout à faire sur ces nouveaux supports, ces nouveaux formats de communication, où elles seront bien meilleures que nous. Voilà.
Et c'est pas une faiblesse pour vous de pas être bon là-dessus ?
Bah, c'est pas notre métier, on n'est pas publicitaire. Le profil c'est très... Nous, on fabrique des films, on développe des talents, c'est ça notre métier, c'est de trouver des talents. En fait, le métier de producteur, il est très complexe, et c'est pour ça que je rejoins sur la formation professionnelle tout à l'heure, c'est comment on forme, comment on développe, comment on arrive à créer ce poste-là. C'est que le producteur, en réalité, c'est plein de métiers. C'est un métier déjà généralement de gérant d'entreprise, parce que c'est des petites structures, donc c'est toute la création d'entreprise, le social qui peut y avoir, enfin la banque, le juridique.
Oui, c'est des vrais entrepreneurs.
Il y a un côté évidemment agent qui est le principal cœur de métier, qui est la découverte des talents et les accompagner sur la durée pour les vendre sur le marché, aux créatifs, aux annonceurs. Il y a un boulot de direction commerciale évidente, parce qu'il faut se créer du réseau, faut trouver, c'est presque du marketing de vente, faut trouver le bon réalisateur adapté à la bonne création. De temps en temps, faut mettre des mecs pas évidents, faut pousser des jeunes talents. C'est un boulot commercial à plein temps. Et puis il y a le fabricant. Fabricant, c'est quand on se retrouve, je sais pas si vous avez vu des tournages de films publicitaires, il y a des dizaines et dizaines de corps de métier, on est les garanties de bonne fin de ces gens-là,
de toute la chaîne,
de l'hygiène et sécurité. Alors là, on a coproduit avec les partenaires sociaux tout un document sur l'hygiène et la sécurité sur les plateaux. Enfin, c'est un taf monstrueux. Et donc, ce métier-là, c'est plein de métiers.
Merci beaucoup, Julien Pasquier. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance des producteurs de films publicitaires.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Cette semaine, c'est avec Emmanuel Grossière de la rédaction de CB News. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, cette semaine, il y a eu encore une grosse annonce sur le marché publicitaire.
Oui, décidément, ça n'arrête pas. Il y a deux semaines, souvenez-vous, on apprenait l'acquisition de Droga5 par Accenture et on se disait que Publicis peut-être était passé à côté d'une pépite. Eh bien, c'est au tour de Publicis de frapper fort avec l'annonce du projet d'acquisition d'Epsilon, filiale spécialisée dans le marketing et la data du groupe américain Alliance Data Systems. Epsilon, c'est une société qui a généré 1,9 milliard de revenus nets aux États-Unis en 2018. Pour l'essentiel, sur le territoire américain, Publicis s'apprête à lâcher quand même 4 milliards de dollars pour cette acquisition. On sait la compétition lancée depuis des années entre agences de pub et cabinets de conseil, auxquelles s'ajoutent désormais les plateformes numériques, comme Google ou Facebook, qui touchent directement les annonceurs. Il y a 4 ans, Publicis avait déjà racheté Sapient pour 3,7 milliards de dollars. Déjà, il faut dire que Sapient venait s'ajouter aux sociétés Razorfish, Digitas ou encore LBI qui ont témoigné de la frénésie d'acquisition de Publicis pour rester au top et surtout pour accompagner ses clients sur toute la chaîne de leurs besoins.
Alors justement, comment est-ce que Publicis arrive à intégrer comme ça toutes ces acquisitions ?
Alors, c'est pas le plus simple, comme on le sait. C'est la question cruciale même. Comment on fait marcher tout ça ensemble ? On sait qu'en France, il y a eu des tâtonnements après avoir créé Sapient Razorfish. Le groupe a fait machine arrière parce que ça ne marchait pas. Alors, il a réservé les compétences en consulting techno à Publicis Sapient et a fondu celle de Razorfish en conseil stratégique dans Publicis Luxe, en France, tout du moins. On sait bien que quand on associe des milieux qui se complètent, mais ne se connaissent pas, ça peut être compliqué parce qu'ils ont des modes de pensée différents. Publicis, dont la raison d'être figure dans son nom même, ce qui est assez rare, dessine le nouveau visage de ce qu'il estime devoir être la publicité au XXIe siècle, c'est-à-dire apparemment beaucoup de techno.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les créatifs ?
Alors là, c'est un peu l'inconnu. Au minimum, on peut considérer que ça va leur offrir des nouveaux terrains de jeu, ça va leur donner de nouvelles occasions d'exercer leur talent sur des campagnes plus personnalisées et multicanales, donc peut-être plus efficaces. Il faut garder en tête que c'est génial d'avoir des milliers de données, mais pister le consommateur dans toutes ses dimensions ne suffit pas finalement. Qu'est-ce qui est le plus important à la fin ? Eh ben, c'est ce qu'on lui raconte, c'est l'idée qui tabasse, c'est l'émotion qu'elle provoque. Dans ce registre, la concomitance des événements invite à la comparaison. On en parlait au début. Lequel des deux modèles, Accenture, Droga5 ou Publicis, Epsilon, slash Sapiens, slash Razorfish, etc., va le mieux fonctionner? Ils ont tous les deux d'énormes atouts, mais quand Droga5, agence la plus primée au monde, va commencer à ouvrir des bureaux dans le monde entier, appuyé sur la puissance d'Accenture, il se peut que ça fasse un peu mal.
Merci Emmanuel Grossir.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le Zoom du jour, c'est avec Jérôme Alquier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur artistique musique de l'agence The et Vrai Jmination, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur musique et expérience à la direction de la marque Orange. Avec Frédéric, ça fait un moment qu'on voulait parler de musique et de publicité, de la relation entre les deux. D'abord, Jérôme Alquier, qu'est-ce qu'une musique peut apporter en termes de plus-value à une publicité ?
Ça dépend, ça peut apporter soit une couleur, soit un rythme, soit un goût, je dirais.
Un goût pour la publicité visuelle ?
Ouais, un goût. C'est comme de la cuisine. Ça peut apporter plus d'émotion, plus de sensibilité, plus de rythme, plus de modernité. Même si on sait jamais trop ce que veut dire modernité, mais voilà, d'être contemporain, d'être dans du recul, de l'humour, de la fraîcheur.
Frédéric.
Mais ça fait aussi, ça joue énormément dans le souvenir, non? On se souvient de musique de pub, on se souvient de Dim, par exemple, il y a des années, ça marque au moins autant, voire plus même que les images, non?
Je pense que la musique était connue avant Dim et que un mariage réussi entre une campagne, une idée créative et une musique qui existait avant cette campagne fait que parfois les mariages sont réussis et... Là, on est sur une œuvre collective qui prend une autre ampleur, qui renaît et qui donne une autre couleur à une musique ou à une image.
Vrai Jmination, la signature musicale d'une marque, ça fait partie intégrante de son identité aujourd'hui ?
Ah oui, complètement, oui. C'est, ça donne la dimension sonore d'une marque et de son ADN. Ça doit incarner, en fait, la marque, donc bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de Dim, c'était l'identité de la marque Dim. Là, aujourd'hui, toutes les grandes marques ont une signature.
Mais toutes les grandes marques ont une signature, mais n'ont pas forcément quelqu'un qui est dédié à leur signature sonore comme vous chez Orange.
Ben, on fait un peu exception parce que il se trouve que le son est historiquement au cœur de nos métiers, déjà. Ensuite, il se trouve qu'en interne, on a des ressources pour se permettre ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des agences ou avec des producteurs. Ça veut juste dire que on pilote un peu plus peut-être le sujet son et musique, parce que je sépare pas le son de la musique avec les questions de voix, etc.
Ouais.
Et dans un groupe comme Orange, qui est présent dans pratiquement 30 pays dans le monde, donc ça pose des problèmes de cohérence, parce qu'on a une particularité aussi, c'est qu'on ne vend pas les mêmes produits d'un pays à un autre, donc il va falloir qu'on gagne en homogénéité autrement, et ça passe par les prises de parole de la marque. Et elles sont aussi sonores, donc il faut garder une homogénéité, une cohérence. Et du coup, l'identité sonore devient.
Vous avez produit littéralement une musique. Vous avez produit vous êtes un producteur de musique en quelque sorte. Et si je me souviens bien, parce qu'on s'était rencontrés à l'époque, en 12 versions ou internationales selon les pays, quoi.
Justement, parce qu'Orange tient à garder cette dimension locale, puisque quand vous communiquez au Mali ou au Maroc, c'est très différent de la Pologne ou de la France. Mais pour autant, c'est la même marque. Donc il faut donner des outils cohérents au pays tout en tenant compte des caractéristiques locales. Donc on a effectivement créé une musique originale qui a été produite dans différents arrangements, mais c'est le même morceau.
Comment est-ce qu'on intègre une musique à une publicité ? On fait le scénario et puis on accole un truc dessus et en espérant que ça marche ? Ou est-ce que... à quel moment du processus industriel ça se passe?
Bon, je pourrais en parler pendant des heures. J'essayais d'être concis. En général, on essaye, pour notre part, mais c'est pareil pour vrai, que ça soit intégré ou dans nos genres de métiers, d'être au début des processus créatifs, voire de planning stratégique, si possible, sur les problématiques d'un client. Et d'accompagner, ça se termine toujours par des gens. Donc des gens avec des goûts qui essayent d'aller dans une direction et de les accompagner durant tout le processus, sachant qu'à la fin, nous sommes les dernier avant la diffusion, par exemple, d'une campagne dans nos métiers du son. Puisqu'il y a une image, il y a un film qui est produit, qui est issu d'une création, qui a été vendue à un annonceur. Nous, on est la dernière étape. Donc, quoi qu'il soit passé de bien ou de moins bien durant toute cette période, qui peut durer jusqu'à un an et demi, deux ans,
ah oui,
avant la naissance d'une campagne, on se retrouve à soit anticiper quand on a le temps, soit à réagir si on a un peu moins de temps. Sachant qu'entre une idée et une fabrication et un résultat, de temps en temps, il y a un gap qui est normal pour ajuster une couleur, encore une fois, un goût, une musique, un rythme, à un film qui, au final, a été tourné, monté et post-produit.
Et vous, vous intervenez comme conseil, c'est-à-dire de dire là sur celle-ci, bah il y a déjà quelque chose d'existant, un tube ou pas un tube, mais un morceau existant, ou au contraire dans ce cas-là particulièrement, bah il faudrait faire une composition spécifique.
C'est tout ça dépend aussi de problèmes de budget, de choix d'un client, puisque les budgets ils peuvent les avoir. Parfois, s'ils le décident, parfois ils décident que non. Ça dépend de quelle typologie de campagne. Donc, ça se précise. Il ne faut pas toujours de la musique achetée. On travaille toujours avec des références, ce qui est normal pour cadrer un peu, encore une fois, des états d'esprit. Et après, de savoir si on arrive à faire mieux que James Brown en 24 heures à la fin et avec un budget 10 fois moindre, je suis pas sûr qu'on soit toujours content du résultat, tous autant qu'on est. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, ça dépend. Chaque cas, encore une fois, est assez singulier.
Merci beaucoup, Jérôme Alquet. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur artistique musique de l'agence The Evrej, Minassian, directeur marque et expérience à la direction, musique et expérience à la direction de la marque Orange.
Professionnels de la communication, inspirez-vous des plus belles opérations de mailing avec la Poste Solutions Business.
BFM Business, Hebdo.com, Solutions Mailing.
Avec cette semaine, Mickaël Dandrieux, bonjour.
Bonjour.
Cofondateur du cabinet Eranos, vous publiez une étude sur la dématérialisation des échanges qui sont au cœur de la relation client. Alors, est-ce qu'un message a le même impact selon qu'il est imprimé sur du papier classique ou qu'il est envoyé par mail ?
Absolument pas. Et pourtant, c'est ce qu'on aura envie qu'il se passe. Le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est la dématérialisation. Si vous vous posez pas la question, vous allez aller avec ce sens de l'histoire. Ce que cette étude montre, c'est que l'usage de différents canaux, des différents médias, a un impact sur le message. Et pourtant, lorsque vous avez une communication à faire, vous vous demandez soit quel est le canal que je vais employer, ça c'est moins cher, ça va toucher plus de personnes, ou alors quel est le message que je vais diffuser, c'est-à-dire quel est le ton, comment je vais parler, quels sont les mots que je vais employer. Personne se demande, très étrangement, quel est l'effet que mon message va avoir sur la personne qui en sera le récipiendaire. Donc, qu'est-ce que je veux faire par rapport au discours social ? Et la raison de ça, elle est très simple, c'est cette évidence qu'il faut dématérialiser. Donc, cette étude n'est pas du tout contre ce monde digital qui nous attend, mais c'est plutôt une occasion de réfléchir à la constitution digitale, numérique du monde dans lequel on est. Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'il n'y a pas des désordres, comme par exemple là, sur exposition aux notifications, la sursollicitation, notre attention qui baisse ? Donc, est-ce que on peut aujourd'hui, en tant que communicant, puisqu'il faut communiquer, avoir une action digitale qui n'est pas, disons, désolidariser de l'activité humaine.
Ça veut dire qu'en fait, il faut parfois utiliser plutôt l'imprimé, le papier, selon le message qu'on veut faire passer, et parfois plutôt le digital.
Mais je pense que c'est une très bonne question à se poser. Premièrement, la question est à se poser. Nous, ce qu'on a essayé de dégager de toute la matière qu'on a ramenée, c'est un outil de décision stratégique, plutôt que de mécaniquement s'engouffrer sur la question de la technique. Le sublime technologique, la fascination qu'exercent sur nous les nouveaux outils technologiques, de dégager un outil de décision stratégique qui permet de dire, si j'envoie mon message sur tel canal ou de telle manière, alors l'effet qui sera produit sur mon récipiendaire est possible. La considération, par exemple, est très difficile à produire avec un email, même si vous envoyez exactement le même message par email.
D'accord.
Ou si vous l'envoyez par papier. On n'imagine pas, par exemple, remettre une légion d'honneur par email, même si vous mettez exactement le même truc, et puis la petite griffouille comme ça, du machin. Vous voyez ? Donc il faut se poser la question, quel est l'effet ? Qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? Et pour ça, ensuite, piloter les envois.
Merci beaucoup Michael Dandrieu, je rappelle que vous êtes cofondateur du cabinet Eranos. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine pour le Best of d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.